Les enfants, régalez-vous. Merci Elo. Eh ben, c'est marrant parce que alors que Elodie avait pris le relais à la fin de la louange, j'avais aussi à cœur de l'honorer et de te remercier Elo. Donc c'est rigolo que tu m'honores autant. Moi je voulais te remercier Elo parce que je pense que vous serez d'accord avec moi les amis. Pour tes paroles prophétiques, il y a ce matin, mais il y a aussi eu dans cette dernière réunion de leaders qu'on a eue avec plusieurs leaders de l'Église, où tu as vraiment une autorité dans le prophétique, mais au-delà aussi, qui est vraiment énorme. Et je le disais à Emmanuel quand on a clôturé la réunion l'autre soir, j'étais vraiment touché, même voilà, rendu vraiment reconnaissant à Dieu pour l'autorité que tu as. Et quand tu entends la voix de Dieu et que tu partages, ça a vraiment une résonance énorme, et je pense que ben, si on est tous là aujourd'hui, c'est aussi parce que tu es obéissante et sensible à la voix de Dieu et que tu nous la partages. Donc merci pour ta sensibilité, merci pour de la mettre en pratique pour nous et pour Dieu. On peut l'applaudir aussi. Donc quelle joie de se retrouver à nouveau 15 jours après notre dernier rassemblement. Alors les amis, je vais être... D'abord, je vais faire marcher cet appareil. Tac, voilà. Et puis ensuite, je vais être transparent avec vous. Donc, c'était pas moi qui était prévu pour le message ce matin. Diverses circonstances familiales et autres, quoi. Elodie vous disait qu'on était très occupés. Alors, je sais qu'on est tous très occupés. On est dans une société et dans une époque où tout le monde est toujours très occupé. Et d'ailleurs, donc il y a des bons côtés, mais aussi des côtés plus défiants. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à devoir prêcher. C'était au début une source de peur et de stress, mais tout de suite une paix est venue parce que ben, je me régale de partager ce que Dieu fait dans ma vie par sa grâce. Et du coup, j'ai repris des notes d'un message que j'avais fait il y a 4 ans. Je ne sais plus si on était ici ou pas, mais j'ai vraiment senti que c'était d'actualité pour la saison. Et du coup, je voulais reparler d'un mot qui était dans la Bible, le mot qui est parfois dit dans la Bible « sauver », parfois dit dans la Bible « guéri », parfois dit dans la Bible « délivré », ou des synonymes de tout ça. Et c'est ce mot en grec « sozo » qu'on a connu et dont on a développé un peu le sens ces dernières années au travers de formations qu'on a fait ou du ministère sozo, pour ceux qui connaissent. J'expliquerai un petit peu ce que c'est. Mais c'est fou parce que ce mot « sozo » vient parler sur la délivrance, le salut, mais plus que le salut, je donne ma vie à Christ, j'ai mon ticket pour le ciel, vraiment le salut complet qui vient dans nous et qui nous touche, qui nous transforme à tel point qu'on est délivré et que notre vie est changée complètement, quoi. Et en fait, pourquoi j'ai souri en pensant que ce message était vraiment pour aujourd'hui, j'ai souri intérieurement, quoi, avec Dieu, parce que une image qui me marque beaucoup quand on parle de délivrance, d'être libéré, c'est l'image du débarquement de 1944 en Normandie. Et pourquoi j'ai souri, c'est que d'un coup, ce matin, je me suis rendu compte que quelle date nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le 6 juin. Et le 6 juin, donc, date, figurez-vous, c'était il y a 77 ans. Il y a 77 ans, les Américains, et c'est marrant, j'ai encore des frissons à chaque fois que je parle de ça, parce que j'aime beaucoup l'histoire, et c'est un épisode de l'histoire qui me passionne. Pour ceux qui ont vu Le jour le plus long, le film avec John Wayne, c'est un de mes préférés. Et le 6 juin 1944, je crois qu'il y avait 5000 bateaux, des dizaines de milliers d'avions qui ont débarqué à 5h, je crois que c'était vers 5h du matin, sur les côtes normandes pour l'opération Overlord, l'opération Suzerain, la bataille de Normandie. Et comme, alors que les Allemands, les Alliés avaient été très bons, ils avaient brouillé les pistes, ils avaient envoyé des faux parachutistes à droite, à gauche, en Normandie, pour brouiller les pistes, ou même dans le Nord-Pas-de-Calais, ou même ailleurs. Et comment, ce matin-là, pour ceux qui ont vu ce film Le jour le plus long, d'un coup, ceux qui surveillaient les côtes de l'Atlantique et de la mer de la Manche ont vu apparaître ces milliers de navires. Et puis voilà, ce jour ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, de gaieté de cœur, pour ceux qui connaissent un peu les histoires autour, mais en tout cas, ça a été le point de départ de la libération de l'Europe, de l'oppression nazie. Et depuis ce jour-là, plus rien n'a été comme avant. Et aujourd'hui, c'est super, on a des amis allemands, on peut se régaler. Mais à l'époque, je pense qu'on aurait été peut-être contraint de parler l'allemand ou autre. En tout cas, notre vie d'aujourd'hui aurait été complètement différente parce que s'il n'y avait pas eu cette opération montée par les Alliés, où il y avait d'ailleurs beaucoup de Français qui ont débarqué aussi de la France libre. Voilà, donc je ne vais pas me lancer dans un cours d'histoire, mais c'était juste pour le clin d'œil du débarquement. Et comme vous savez, des fois, il y a des fatalités. On a l'impression des fois qu'il y a des fatalités, mais non, Dieu peut agir. Et on va parler de ça un peu plus en détail. Du coup, sur vos Bibles ou vos portables, vos Bibles de portable, vous pouvez regarder dans Matthieu 9. Je voulais vous relire quelques versets de Matthieu 9. Vous savez, c'est l'histoire de la dame à la perte de sang qui est guérie miraculeusement. Donc je lis Matthieu 9, verset 18. « Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment-là, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, « Parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Je vais prier. Merci Jésus pour ce passage. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ton Église, merci pour le privilège, comme disait Olivier, d'être ensemble, de pouvoir te louer, t'adorer ensemble et de pouvoir apprendre de tes Écritures, de pouvoir apprendre de comment tu nous parles plus globalement et de se laisser encourager par toi. Merci Seigneur parce que tu es le plus grand des encourageurs, tu es le plus grand des exhorteurs. Tu sais nous relever, tu sais nous parler, nous dire les petites choses ou nous toucher de la manière qui va tout changer en nous. Même dans les plus grands moments de difficulté, tu es celui qui change le mal en bien. Nous te louons, nous t'adorons ce matin, Jésus. Amen. Et du coup, ce passage est vraiment marquant. Et du coup, au moment où il est écrit « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri », c'est ce mot-là en grec, « sozo », S-O-Z-O, dont je parle ce matin. Et ce passage est dans trois évangiles, Matthieu, Luc et Marc. Et dans Marc, si on va regarder le même passage dans l'évangile de Marc, il nous est dit que cette femme était désespérée. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. 12 ans, ça fait quand même long. Et elle avait consulté apparemment de nombreux médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Et je pense que c'est important qu'on s'imagine et qu'on compatisse avec cette femme de réaliser que cette maladie... grave, déshonorante pour elle, d'autant plus dans la culture de l'époque où les femmes étaient déjà d'un rang inférieur, mais beaucoup de souffrance. J'imagine que si elle perdait beaucoup de sang, ça veut dire qu'elle devait être en anémie totale, elle devait être extrêmement fatiguée. Donc je pense que son quotidien était difficile, fatigant. Et je pense qu'elle a entendu parler de ce Jésus et elle s'est dit, c'est ma chance, il faut que je la saisisse et en gros, rien ne pourra m'en empêcher. Elle était investie d'une mission, elle était désespérée, donc il y a le sens négatif de désespérer, c'est-à-dire vraiment dans le désespoir, mais il y a aussi le sens positif de désespérer, ça veut dire vraiment rien à perdre, je vais y aller, je vais obtenir ma guérison, ma libération, ma délivrance. Et je pense que beaucoup d'entre nous, moi c'est sûr en tout cas, on peut s'identifier à cette femme où régulièrement dans ma vie, dans nos vies, je pense, on a des moments comme ça où on se dit, purée, mais si ce n'est pas Dieu qui agit, si ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose, je cours à ma perte, je vais être dans le désespoir le plus total, qu'est-ce que je vais devenir? On a des exemples extrêmement nombreux, même ces derniers jours, ces dernières semaines, de situations comme ça. Jésus ne nous a jamais dit que la vie avec lui, même avec lui, la vie serait un long fleuve tranquille. Il nous a dit qu'on aurait des difficultés. Par contre, il nous a aussi dit qu'il serait toujours là, qu'il serait toujours là. Et il a été là pour cette dame à la perte de sang. Ce mot est utilisé 102 fois dans le Nouveau Testament, tantôt comme sauvé, tantôt guéri, tantôt délivré. Et vraiment, voilà, c'est vraiment cette étendue du salut. Vous savez, on est dans une époque où on aime bien mettre on aime bien faire des cases, des catégories. On va mettre les gens dedans, on va se mettre dedans et on va catégoriser un peu. Et c'est vrai que dans notre vie chrétienne, ben, le salut, c'est vraiment le mot. Ça va. Quand on pense salut, on va vraiment donner. Ah ben oui, je place ma foi en Dieu, je lui fais confiance, je crois au sacrifice de Jésus pour moi. Et donc ça y est, tac, j'ai mon ticket pour le paradis. Case cochée. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le salut, c'est bien plus large que ça. C'est une totale. La Bible dit qu'on devient des nouvelles créatures. Donc c'est carrément, on repart à zéro. C'est une nouvelle création. C'est bien plus que juste un ticket pour le ciel. C'est une transformation totale de notre être et de qui nous sommes grâce à Dieu. Amen. Quel espoir extraordinaire. Et du coup, je voulais juste regarder les trois sens de ce mot très rapidement parce que j'ai vraiment à cœur le plus important à la fin qu'on puisse prier. Prier pour que ce salut puisse encore nous toucher, nous transformer, pour aller plus loin que là où on en est aujourd'hui avec Dieu. Vous êtes d'accord? Vous avez soif ce matin d'être touché par Dieu, encore une fois? Génial. Donc sauver. Sauver dans le sens salut, dans le sens ticket pour le ciel, acceptation, réconciliation avec le Père. Et là, je voulais qu'on lise Éphésiens 2, verset 8. Je vous le dis souvent, Éphésiens 2, c'est un de mes chapitres préférés de la Bible. Et en fait, pendant la louange, je me suis dit, non, mais il faut lire un petit peu avant le 8, c'est hyper important. Donc en fait, Éphésiens 2, verset 1. Paul nous dit, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Et entendons bien ces mots. « Autrefois, vous étiez morts. » Par ces actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, nous étions-nous par nature voués à la colère de Dieu. » Donc ça, c'est important de le relire. Moi, vous savez, je suis un fervent défenseur de la théologie du salut qu'on ne peut pas perdre. Je ne suis pas du tout là pour un débat théologique ce matin. C'est juste que dans mes tripes, je crois que ce que Dieu a fait quand il m'a sauvé, qui serais-je moi en tant qu'homme pour le défaire? Si Dieu dit que je suis son enfant, qui serais-je moi pour décréter que je ne suis plus son enfant? Et donc, en gros, je suis vraiment un fervent défenseur que Dieu ne se repent pas de ses dons, de ce qu'il a fait, est ferme et définitif et que ce n'est pas mes actions qui vont y changer quelque chose. Mais ne soyez pas offensés si vous pensez différemment, il n'y a aucun souci, je dis juste ça pour avancer dans mon point. Mais cela étant dit, il faut quand même, ce n'est pas comme si avant que je suive Dieu, il n'y avait rien eu. Ce n'est pas comme si la vie d'avant n'avait pas existé. Non, vous étiez mort, par nature, voué à la colère de Dieu comme le reste des hommes, s'applique à chacun de nous. C'est très important, même étant sauvé, même étant enfant de Dieu, même vivant toutes ces choses extraordinaires avec lui, on n'oublie pas d'où on vient et on n'oublie pas ce que Dieu a fait en nous. Cet après-midi, on va avoir le privilège d'être témoin du baptême de Diane qui est ici. Et le baptême, c'est vraiment ça, quoi. C'est dans l'eau, c'est pour ça que c'est super d'être plongé complètement dans l'eau. Pareil, pas de débat théologique là, mais juste l'image plongée. On ne peut pas respirer dans l'eau, c'est vraiment cette image de la mort. Et je reviens à la vie. Il y a un avant et un après. Et parfois, quand c'est mon cas, pareil, on est né dans des familles chrétiennes, quel incroyable privilège. C'est difficile de voir cet avant et cet après. C'est plutôt quelques allers-retours. Mais en tout cas, il y a cette réalité spirituelle qui demeure. C'est que sans Dieu, nous étions morts. Et vous savez, pareil, dans la société, c'est important, je pense, de voir dans le siècle dans lequel on est, de faire des comparer par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Mais nous, il y a eu le siècle des Lumières en France. Et du coup, le siècle des Lumières, c'est vraiment l'homme, en fait, intrinsèquement est bon. Il il y a des bonnes choses dans l'homme, et du coup, je peux me fier à moi, je peux me fier aux autres, parce que l'homme est bon, bon, même s'il fait des mauvaises actions, vraiment, au fin fond, il est bon. Eh bien, en fait, non. En fait, non. En fait, il n'y a rien de bon dans l'homme sans Dieu. Sans Dieu, nous étions voués à sa colère, pas à cause de lui, hein, mais parce que l'homme, nous, Adam et nous représentant tous, a choisi de mettre Dieu de côté et de faire sa propre vie. Du coup, il n'y a pas de « ah oui, peut-être, mais quand même, il y a des bonnes choses dans l'homme ». Non, oui, il y a des bonnes actions, mais en tant que nature, il n'y a vraiment rien de bon. Il n'y a vraiment rien de bon parce que c'est loin, c'est éloigné, c'est séparé de Dieu, et tout ce qui est séparé de Dieu ne peut pas être bon. Mais je ne dis pas ça pour venir en jugement. Je dis ça au contraire parce que si on veut être réellement transformé, il faut être réellement savoir d'où on vient. Il faut en faire en fait un. Vous savez, c'est comme quand on soigne un malade. Pour trouver le bon traitement, il faut trouver la bonne cause, trouver les bonnes raisons de son mal-être. Et une fois qu'on a trouvé les bonnes raisons, et ben là, on peut apporter le traitement approprié. Vous êtes d'accord avec ça? Et ben c'est pareil pour tout ça. Si je pense que non, il y avait quand même un peu du bon en moi, est-ce que vraiment je vais avoir besoin à 100% de Dieu? Est-ce que vraiment je vais avoir besoin que Dieu me touche, me transforme, me sauve, me guérisse, me délivre? Ben non, parce qu'en fait, intérieurement, je vais peut-être trouver des ressources qui vont me permettre. Et vous et moi, vous savez que seuls, on n'arrive pas à grand-chose et que nous avions vraiment besoin de lui. Nous étions morts, vraiment morts. Mais grâce à lui, nous sommes vivants. Amen. Excellent. Donc, j'en étais au verset 4, je continue. « Mais Dieu qui est riche en bonté, c'est déjà 11h37, j'accélère, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, Paul le répète, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns avec les autres, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Et il le répète, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter, je finirai là. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et vraiment, pour en finir avec ce siècle des Lumières, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ça peut être vraiment fatigant d'essayer de se sauver soi-même, parce qu'on va vous essayer très fort par nos bonnes actions, en se forçant très très fort, vous savez. Et c'est bien il y a d'autres versets dans la Bible où Dieu dit qu'il faut faire fructifier son salut. Ça ne veut pas dire que vous savez, les excès d'une théologie, et je mets beaucoup d'eau dans mon vin mais, parce que je suis très calviniste quand même par nature, mais les excès d'une théologie excessive du calvinisme, ça va dire Dieu fait tout, moi je n'ai plus rien à faire. Alors que l'arminianisme va dire, ah ben non, c'est moi, c'est mon salut, c'est ma décision, c'est parce que j'accepte Dieu que je suis sauvé. Et du coup, ça met une emphase plus importante sur l'homme. Bon voilà, moi je suis pas vraiment calviniste ou arminien. Je pense que c'est l'équilibre des deux qui est bien. C'est Dieu qui fait tout le travail, mais il nous force pas la main quand même. Il nous permet de l'accepter. Il nous permet de l'accepter. Mais c'est par grâce qu'on est sauvé. C'est un cadeau. Donc pour être sauvé, en fait cette dame, vous voyez, elle y met tout son cœur, tous ses efforts pour arriver à Jésus. Donc elle fait pas rien. Elle y va. Elle est désespérée. Elle y va. Elle le touche. Mais son salut vient de quoi? Vient de l'amour de Dieu, vient de la puissance de Dieu. Et vous savez, Dieu, c'est ma conviction intime, Jésus ne fait pas des miracles premièrement pour démontrer sa puissance. Il fait des miracles premièrement par amour. Par amour. Et d'ailleurs, si vous regardez le passage qu'on vient de lire, il était en chemin pour aller ressusciter cette fille. Et je pense qu'il y avait vraiment un niveau de compassion énorme à ce moment-là, au moment où Jésus se met en route et qu'il est vraiment rempli d'amour. Il est appelé par ce gars désespéré et cette femme le touche à ce moment-là. Et peut-être que c'est un hasard, mais peut-être que c'est pas un hasard si elle est guérie comme ça, sans aucune interaction avec Jésus, que le fait de toucher son manteau. Je pense que Jésus est tellement rempli d'amour à ce moment-là, bon, il l'est toujours d'ailleurs, hein, qu'elle est délivrée instantanément et il lui dit, ta foi t'a sauvée. sa foi, la foi de cette femme l'a sauvée, la foi dans cet amour incroyable, comme il n'y en a pas d'autre. C'est par grâce. Donc ne cherchons pas à nous sauver par nos propres efforts. Dans toute situation où on se trouve, même au quotidien, combien de fois, moi, ces derniers jours encore, si c'est moi qui prêche ce matin, ce n'est pas un hasard. On a eu des tumultes dans la semaine, dans la famille, ce n'était pas simple tout le temps. Et combien de fois on essaye, on raisonne, on dit « Ah, mais je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir tel discours à telle personne. » Et combien de fois, en fait, quand on s'arrête, « Stop, arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Qu'on se tourne et lui dit « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. » Sa grâce vient. Et là, comme par hasard, les situations se débloquent. Comme par hasard, les situations se débloquent. Comme pour cette femme, les situations se débloquent. Vous êtes d'accord? Ça me fait penser à mon cousin au Canada. Il m'avait raconté cette histoire, ça m'avait profondément marqué. Il connaissait Dieu, mais d'assez loin. Et il avait déménagé au Canada avec plusieurs amis à lui. Ils étaient en coloc. Et en fait, les années ont passé, et petit à petit, ses colocs ont commencé à rentrer en France. Mais lui, il travaillait, donc il était resté. Et en fait, étant quand même assez loin de Dieu, il s'est retrouvé dans un état intérieur vraiment de grande dépression, beaucoup de solitude. Et du coup, il s'est mis à reparler à Dieu. C'est souvent quand on est mal comme ça qu'on revient vers Dieu. Et du coup, un soir, il était vraiment au comble du désespoir. Il était dans son lit, il était très mal. Il était tellement mal que d'un coup, il a levé sa main comme ça dans le noir de sa chambre. Physiquement, hein, réellement levé sa main comme un appel à Dieu de dire « Dieu, si tu es là, fais quelque chose. » Et au moment où il a fait ça, il a senti, vraie histoire vraie, une main prendre sa main. Et là, il y a comme une puissance qui est descendue. Et d'un coup, il a été complètement envahi par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Et ce qui est fou, c'est que, vous savez, quand Dieu nous touche réellement, il y a des effets réels dans notre vie. Sa vie a complètement changé de ce jour-là. Il est vraiment revenu à Dieu. Il était célibataire, il savait pas trop quoi faire de sa vie. Il a trouvé une femme extraordinaire aujourd'hui. Ils sont mariés, ils ont deux enfants magnifiques. Et voilà quoi. Vraiment, dans ce moment de désespoir, il a tendu sa main à Dieu. Vous savez, c'est la misère et la miséricorde. Quand tu es dans la misère, Dieu t'envoie une corde. Il était tellement dans la misère, Dieu a saisi sa main. C'était pas fait pour faire rire, mais c'est vrai que c'est un bon moyen mnémotechnique de se rappeler de la grâce de Dieu qui intervient. En lui seul, acte 4:12 nous dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Alors arrêtons d'essayer de nous sauver nous-mêmes, ou même nos amis. Parfois, il y a des situations difficiles. Arrêtons d'essayer de sauver nos amis tout seuls. Mais demandons à Dieu qui, par sa grâce, vient. Merci Seigneur. Donc ça, c'était sauver, le salut, ensuite guéri. Donc là, cette femme, elle est guérie physiquement. Il nous est dit qu'elle a été instantanément guérie. C'est tellement génial quand ça se passe comme ça. Je pense qu'au-delà des saignements, il devait vraiment y avoir des souffrances, et elle a dû vraiment sentir la puissance de Dieu venir en elle et une énergie de vie venir instantanément. Ésaïe 53:5, ce verset tellement connu qui nous dit « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et Jésus, ce dont je vous parle, de passer de la mort à la vie, Jésus a dû vivre ce changement de nature que nous, on a vécu. Jésus a dû le vivre à notre place pour nous. Il a été brisé. Il a dû expérimenter la mort au-delà de des clous qui l'ont percé, même il y a eu tout ce processus où il a dû s'avancer loin dans la mort. Il nous est même dit qu'il est allé au séjour des morts. Il a vécu tout le pire de ce qu'on peut vivre, en gros, parce que c'est pas qu'une histoire physique, c'est une histoire aussi psychique d'abus, de d'être mis en spectacle. Il a été brisé quoi dans tous les domaines de son être. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il y a vraiment eu ce passage de la mort à la vie, quoi. Jésus l'a expérimenté. Mais parce qu'il est passé par là, nous avons accès à cette guérison instantanée. Nous avons accès à tous ces miracles. Et juste pour... Vous savez, des fois on doute aussi parce que tous les gens pour qui on prie ne sont pas guéris instantanément. Parfois il y en a qui sont guéris dans les heures, les minutes, les heures, les jours qui viennent. Et puis parfois il y a des gens, on ne comprend pas, la guérison ne vient pas. Mais même s'il se passe ça, c'est vraiment important qu'on s'entretienne par des témoignages et par la parole de Dieu pour rester dans cet écosystème sain dans notre tête que Dieu guérit. Dieu est bon, c'est sa nature de guérir et il a tout accompli pour qu'on voit la guérison dans notre quotidien. Amen. Et du coup, je vous raconte cette histoire très ancienne de quand j'avais 13 ans et je faisais sport-études natation à l'époque et je passais beaucoup de temps dans l'eau tous les jours. Mais j'avais ce problème d'allergie grave d'urticaire, de crise d'urticaire, et à tel point qu'une fois notamment, ma prof de natation a dû me faire sortir de l'eau, me mettre les jambes en l'air. Je faisais un œdème de Quinck, j'avais ma gorge qui commençait à se resserrer, j'étais couvert d'urticaire sur mon corps entièrement, quoi. Et j'avais des traitements à l'époque qui atténuaient, mais c'était un enfer, quoi. Et dès que j'allais au soleil, ou dès que je transpirais, ou dès que j'étais dans l'eau de la piscine, régulièrement, comme ça, avec la chaleur, l'urticaire venait. C'était un cauchemar. Et à l'époque, on faisait partie d'une super église qui existe toujours à Nîmes, Saint Martin Luther King. Et les anciens avaient proposé de me faire l'onction d'huile, comme la Bible nous y enseigne. Donc j'étais venu devant de mes 13 ans. Et ils avaient prié pour moi, ils m'avaient imposé les mains et m'avaient fait l'onction d'huile. Eh bien, j'ai été totalement délivré de ça. Je ne me rappelle plus, pour être exact, si c'est du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose comme ça, en tout cas, dans les jours qui ont suivi, ces crises d'urticaire se sont totalement arrêtées. Et c'est un des événements les plus marquants de ma vie, quoi. Donc je suis reconnaissant à Dieu, et c'est rigolo parce que parfois, quand je vais courir, j'ai des tout petites démangeaisons, pas vraiment des démangeaisons, mais j'ai comme des tout petits trucs qui viennent, mais ça ne reste pas, c'est très succinct. Mais ça me rappelle toujours, ça me rappelle ce que Dieu a fait dans ma vie, et c'est des moments où je le loue encore. Donc tout ça pour dire que l'étendue du salut de Dieu se manifeste dans le physique aussi, dans nos corps. Il n'y a pas vraiment de différence entre le naturel et le spirituel. Et il faut continuer de s'encourager parce que quand on est guéri, c'est comme ce dont on a parlé juste avant, avec ce salut, c'est que quand on est touché par Dieu, et ben notre vie est transformée derrière. Mais quand on expérimente des guérisons comme ça, et ben c'est pareil. Comme je vous ai dit, c'est un signe par excellence de l'amour de Dieu pour nous. Et donc, on ne peut pas s'empêcher que de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, ce n'est pas juste la guérison pour la guérison, même si c'est extraordinaire. C'est aussi pour les fruits que ça porte derrière dans ma vie et dans la vie des gens qui m'entourent. Donc, ne cessons pas de prier les uns pour les autres. Et à la fin, on priera aussi ensemble pour ça, pour la guérison. Et le dernier, il y a d'autres, peut-être d'autres synonymes aussi, mais le troisième aspect que je voulais voir avec vous ce matin sur ce mot sozo, c'est délivrer. Parce que, comme je vous le disais, cette femme n'a pas uniquement été guérie physiquement. Sa vie a changé. En tout cas, sa foi a été vraiment encouragée. Et je pense qu'elle a été une femme différente à partir de ce moment-là, en rencontrant l'amour de Dieu de manière aussi forte. Mais quand Dieu agit comme ça en nous, c'est là que la délivrance peut aussi venir. Vous savez, pareil, je vous raconte un peu mes croyances et mes valeurs fortes, et je crois réellement au travail définitif de la croix de ce que Jésus accomplit pour chacun de nous, que quand on place notre confiance en lui, on est sauvé, on est guéri, on est délivré. Et ça, c'est ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis tout petit, et je le crois toujours fermement. Mais ce que je crois aussi, c'est que par des portes ouvertes, par des maladies, par des blessures dans nos cœurs, par des circonstances diverses, il peut quand même y avoir des choses, il y a des choses dans nos cœurs, dans nos âmes, qui nous tiennent captifs, qui nous emprisonnent. Et c'est important en tant que chrétien de ne pas faire la sourde oreille. Non, 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 je suis chrétien, tout va bien. C'est comme les gens qui disent « je suis guéri » mais qui ont toujours les symptômes. Dans un sens tu es guéri, mais tu as quand même les symptômes, donc tu n'es pas vraiment complètement guéri tout de suite. Eh bien, c'est pareil pour les choses qui sont en nous. C'est important de faire les bons diagnostics, de ne pas faire la sourde oreille. Et quand on souffre, quand on a des blessures, quand on a des tentations, des péchés qui ne veulent pas partir malgré la prière, tout ça, c'est qu'il y a des blocages. C'est que, donc, c'est important de ne pas nier ça en tant que chrétien, d'être ouvert à ce que Dieu nous parle sur ces choses, parce que Dieu veut nous délivrer, évidemment. Il veut nous débarrasser de ces choses-là. Galates 5, 1 nous dit que le Christ nous a rendus libres, ou délivrés, bien sûr, pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Ce que nous dit ce passage, c'est que c'est un processus tout ça. C'est que comme notre corps physique, notre intérieur, notre âme, notre cœur seront totalement libres une fois que nous serons au ciel avec Jésus. Mais d'ici là, on a ce parcours où on est rendu de plus en plus libre. Sinon, il ne nous dirait pas « ne vous laissez pas à nouveau réduire en esclavage ». Je pense qu'on peut à nouveau se laisser réduire en esclavage par toutes sortes de choses. Mais c'est pour ça que c'est important de rester dans une dynamique. Le salut, c'est ponctuel. Mais ensuite, la sanctification, ou juste pour dire des mots plus simples, la marche avec Dieu, la vie avec Dieu, c'est quelque chose de, ben voilà, c'est sur le long terme, et petit à petit, de gloire en gloire, on progresse et on grandit pour devenir semblable à Christ. Amen. Et du coup, ce passage, en fait, dans Galates, Paul parle de la différence entre vivre sous la loi et vivre sous la grâce. Et comme il y a vraiment en Jésus un changement total de système de pensée, là où dans l'Ancien Testament et là où le peuple hébreu, à partir de Moïse, plus de 1000 ans, 1300 ans, 1400 ans avant Jésus, est vraiment dans ce paradigme, dans ce système de pensée de la loi, et bien du coup, pour plaire à Dieu, je dois me comporter d'une certaine manière, je dois accomplir certains gestes, je dois faire tel et tel sacrifice. Jésus accomplit le sacrifice ultime et nous permet de rentrer dans ce nouveau système de pensée où, quand je suis à lui, le voile est déchiré, je suis réconcilié, uni avec Christ, et du coup j'ai accès à lui. Il n'y a plus de séparation, et du coup j'ai accès aussi à son amour, à son travail, le travail de son amour dans mon cœur pour être totalement délivré. Et ça, c'est un processus. Et ce n'est pas les mauvaises actions que je vais faire vont pas me... Bien sûr, ça va être dur sur le moment, ça va me freiner, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer d'avancer. C'est important de pas rester sous ce joug de la culpabilité. Vous savez, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est important de vraiment, pareil, ce verset, de se le redire. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire que... parce que si on se met dans cette posture de victime, de condamnation, ça va rendre... Enfin, on ne va pas aller plus loin, quoi. On ne va pas chercher la délivrance au bon endroit. Et là, pareil, la délivrance est vraiment accessible à tout le monde. De quoi on peut être emprisonné? Ça peut être tellement de choses dans notre quotidien. Ça peut être les jeux, ça peut être l'argent, ça peut être la nourriture. Vous savez que moi, j'ai un chemin particulier avec ça, sur la nourriture, où c'est vraiment quelque chose où je dois être vigilant, parce que c'est une des choses qui peut nous tenir prisonniers. Le regard ou l'approbation des autres, ce qu'il y a sur Internet qu'on regarde, qu'on ne devrait pas regarder, le jugement quand on se sent supérieur aux autres, la peur, la comparaison, on se sent soit supérieur, soit inférieur à l'autre, mais dans aucun des cas, ben, ça honore Dieu. Le contrôle, toutes ces choses, il y a tellement de choses qui peuvent nous tenir prisonniers. Et c'est comme si c'était des péchés qu'on accepte, parce que c'est souvent des choses cachées. Ce n'est pas des choses que, là, très souvent, il n'y a que nous qui vont en être conscients de ces choses-là, parce que c'est vraiment dans le secret de nos cœurs. Mais Dieu, c'est le Dieu de la lumière, et aujourd'hui encore, la lumière vient, parce que Dieu veut nous délivrer. Et comme je vous disais, c'est un processus pour vous donner aussi mon exemple personnel. Donc, vous savez qu'on a pris cette période de sabbatique, où j'ai vécu des choses, vraiment, je n'ai pas vécu une période très, très facile pendant ce temps d'arrêt. Mais une des décisions que j'ai prises et qu'on a prises à ce moment-là, c'est de faire cette semaine de guérison intérieure pour laquelle je m'en vais ce soir à côté de Valence. Une semaine pour, il y a plusieurs GPN, il y a plusieurs qui connaissent ici ou qui l'ont déjà fait. Une semaine pour recevoir certes des enseignements, mais surtout de la prière et de vraiment être touché par Dieu. Parce que voilà, j'ai beau être responsable dans cette belle communauté qu'on a fondée il y a 6 ans, et c'est une joie. Mais comme tout le monde, j'ai mon chemin personnel avec Dieu. Et comme je vous dis, ce n'est pas tous les jours facile, donc je me réjouis de passer ce temps. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez prier pour moi cette semaine. Mais tout ça pour vous dire que voilà, il faut pas cacher ça. Il faut pas cacher ça à Dieu. C'est vraiment la tentation de l'homme depuis le début. Adam, dans le jardin d'Éden, il pêche avec Ève et il croque ce fameux fruit défendu. Quel est le premier réflexe, alors qu'il n'a jamais connu le péché, le péché n'existait pas jusqu'à ce moment-là. Le premier réflexe, c'est de se cacher. Et Dieu dit, mais Adam, où es-tu ? Et c'est vrai que il faut vraiment, pour que même Dieu ne sache pas où on est, il faut vraiment bien se cacher. Je pense que Adam était, il y a eu ce réflexe tout de suite, la honte, la culpabilité, je me cache. Non, ne cachons pas. Dieu sait dans tous les cas. Dieu dit à Adam, où es-tu ? Il sait très bien où il est en fait, mais déjà, il cherche à restaurer la connexion avec son fils bien-aimé. Et Dieu cherche aujourd'hui encore à restaurer la connexion avec toi. Donc, quand il y a des choses comme ça, s'il y a des choses qui te tiennent prisonnière, prisonnier, eh ben, c'est encore le moment d'aller plus loin dans le fait de les confier à Dieu, de les mettre à la lumière pour être délivré et connaître cette vraie liberté. Moi, j'aspire à une liberté qui se voit ben, non seulement sur mon visage, mais aussi dans mes actions. Parce que quand on est retenu prisonnier comme ça, ça nous bride de tout ce que, vous savez, on a lu ces œuvres préparées d'avance que Dieu a pour nous, on a lu ça dans Éphésiens. Mais quand on est tenu prisonnier comme ça, on ne va pas aller voir l'autre pour l'aider parce qu'on va être tellement prisonnier à l'intérieur de nous-mêmes. On ne va pas pouvoir faire ci, faire ça, faire apporter ces paroles de consolation, comme disait Élodie, parce qu'on est trop, on est prisonnier, quoi. Et comme un oiseau en cage, un oiseau, ce n'est pas fait pour être en cage. Un oiseau, c'est fait pour voler. Aucune offense pour toutes les mamies et leurs petits canaris très mignons dans leur cage, mais quand même, à la base, un oiseau, c'est fait pour voler. Et Dieu veut que l'on puisse voler avec lui. Dieu veut nous faire passer de la mort à la vie. Nous sommes passés avec lui de la mort à la vie quand nous plaçons notre confiance en lui. Mais même dans la vie de tous les jours, il y a d'autres degrés, d'autres aspects de mort dans notre quotidien où Dieu veut nous faire passer de la mort à la vie. Amen. Et du coup, je finis par ces deux versets. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. C'est ça, quand on est délivré, c'est ça. C'est ça la vie avec Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et souvent, ben, malheureusement, par période ou souvent, c'est pas vraiment des fleuves, ça va être des petites rivières. Il va y avoir, comme nous expliquait Simon souvent, des choses qui vont bloquer, les choses dont j'ai déjà parlé. Mais c'est pas ça qu'on est appelé à vivre. Nous, ce qu'on est appelé à vivre, c'est des fleuves d'eau vive. C'est ça la vraie liberté. C'est que ça coule, ça vient du ciel. Vous savez, up and out, ça vient de Dieu et ça coule en nous et ça va vers les autres. Il faut que ça coule. Et si ça ne coule pas, c'est qu'il y a des blocages. Et s'il y a des blocages, il faut s'en occuper. Et ce dernier verset, Galates 5,16, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. C'est ni par puissance, les amis, ni par force, ni par... C'est hyper important, la psychologie, de verbaliser, de parler, d'aller voir telle ou telle personne, de parler à nos amis. Tout ça, c'est super. Mais ça ne remplacera pas le travail de l'Esprit en nous. C'est lui vraiment qui est capable. C'est lui le libérateur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit. Et on a fêté, on a eu ce message extraordinaire et où beaucoup ont pu s'avancer de Jonathan il y a 15 jours. Mais on ne change pas de chapitre, les amis, ce matin. On est toujours dans le même chapitre. On a besoin que l'Esprit de Dieu... Il est 12h, je prends 2 minutes de plus pour vous raconter ce témoignage, pour nous donner aussi envie de recevoir plus. Je l'ai déjà raconté. Il y a des gens de l'Église qui le connaissent parce que je l'ai déjà raconté il y a quelques temps. Mais on avait quelqu'un dans notre famille, de la famille d'Emmanuel. Voilà, leur couple, c'était super dur. Et ils avaient déjà beaucoup d'années de mariage derrière eux. Et ils avaient décidé de faire cette semaine de couple comme un petit peu la semaine de la dernière chance, une semaine Cana, pour ceux qui connaissent ce ministère catholique ou œcuménique, je ne sais plus. Et au cours de cette semaine, ce fameux homme n'y arrivait pas, quoi. C'était trop dur pour lui, il se sentait complètement bloqué, et même ça générait beaucoup de colère. Donc, en fait, ils étaient en train de se disputer. Et lui a dit, je vais partir, quoi. Je vais quitter, donc la laisser toute seule. Donc franchement, ça prenait pas, leur couple ne prenait pas du tout un bon chemin. Et au moment où il allait quitter les lieux, il a dit à sa femme, il a prononcé ces mots, ces simples mots, on a vraiment besoin du Seigneur. Il a dit juste ça, on a vraiment besoin du Seigneur. Il a dit ça comme des mots de dépit et comme de désespoir, quoi. Et à ce moment-là, croyez-le ou pas, moi je le crois, j'ai vu, je suis témoin, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc là, je vous parle de quelqu'un qui fait à peu près 2 mètres, qui est extrêmement baraqué, costaud, et il est tombé à genoux dans l'herbe, dans la pelouse où il était, s'est mis à pleurer d'un coup alors que l'Esprit l'a visité. Et il n'est pas parti. En cet instant, il a été totalement transformé. Et aujourd'hui, je vous parle de ça, on est 5 ans après à peu près, je pense. C'est un homme, on a du mal à croire que c'était la même personne avant. Tellement Dieu l'a touché, tellement il le témoigne partout où il va de l'amour de Dieu, tellement il y a eu de la réconciliation dans son couple, avec ses enfants, ses propres enfants qui avaient du mal à eux-mêmes envisager leur couple et tout sereinement. L'arbre généalogique a été totalement transformé, quoi. Donc c'est pour vous dire que je ne dis pas ça pour faire du sensationnel, je témoigne juste de ce que l'Esprit est capable de faire, et vous le savez, mais c'est important de se rappeler ces choses-là. Amen. Est-ce que Sam, tu peux venir? Est-ce qu'on peut se lever pour prier? On va vraiment juste laisser le Saint-Esprit toucher nos cœurs, parce que, comme le dit la parole, sans lui, on ne peut rien.